Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
François Rochon est un gestionnaire de portefeuille. Le nom de sa firme, c'est Giverny Capital. Il y a un livre qui vient d'être publié. Et l'auteur, c'est André Gosselin, qui nous fait un profil, qui nous montre le parcours, en fait, de cet investisseur qualifié d'exception. Monsieur Rochon, bonjour.
Bonjour.
Je regardais votre bio et tout ça, puis le livre en question. Vous êtes né dans Rosemont et vous avez d'abord fait vos études pour devenir ingénieur. Qu'est-ce qui vous a amené vers la finance, vers la gestion de portefeuille d'abord?
Bien, je pense que c'est toujours un domaine qui m'intéressait, là, la bourse, le placement. Mais l'image que j'en avais quand j'étais jeune, là, c'est que c'est un monde de requins dominé par un gros casino à l'échelle planétaire. Donc, c'était pas quelque chose de sérieux à faire avec sa vie, je trouvais à l'époque. Et quand j'ai eu terminé mes études de génie, je me suis réintéressé au placement et j'ai lu beaucoup sur la bourse, sur les grands investisseurs. Et quand j'ai lu d'abord un livre de Peter Lynch, puis ensuite toutes les lettres annuelles de Warren Buffett, ben, j'ai compris qu'investir en bourse, là, c'était pas un casino. Beaucoup de gens l'abordent comme un casino, mais c'est pas ça la réalité. On peut acquérir des parts d'entreprise, étudier les entreprises en détail, tenter les évaluer, puis parfois les acheter bien en bas de leur valeur. Donc, si on utilise la rationalité, on peut obtenir des bons résultats.
Bon, Warren Buffett, c'est un peu votre mentor. Vous êtes allé même jusque dans son territoire pour voir comment il influençait, quelles étaient ses stratégies d'achat. Les gens qui nous écoutent ce matin, là, ou ils décident eux-mêmes de gérer leurs propres affaires, ou ils font affaire avec des gens comme vous, ou encore des institutions. Quelqu'un qui gère son argent puis qui fait ses choix de placement, il se trompe en faisant ça?
Mais moi, j'ai commencé comme ça. Alors, j'étais un ingénieur qui a commencé à investir ses épargnes. Donc, c'est certainement possible de le faire. Mais il faut y mettre beaucoup de temps. Il faut lire beaucoup. Il faut étudier les compagnies en détail. Puis c'est pas tout le monde qui a ce temps-là. Puis c'est pas tout le monde qui a l'intérêt pour ça. Ça prend l'intérêt là pour faire ça. Il faut vouloir lire des centaines d'états financiers en détail, éplucher là tous les petits chiffres là d'amortissement, les stock options. Il faut aimer ça. Si on aime ça, on peut faire pas mal n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'il faut dans la vie, c'est trouver sa passion. Puis là, quand on aime ce qu'on fait, ben, c'est jamais du travail, c'est jamais une corvée, là. C'est du plaisir, là.
Là, vous me corrigerez, là, mais si je résume quelques-uns de vos principes, puis la substance de votre stratégie, vous dites, faut identifier des entreprises qu'on peut acheter pas cher, qui n'ont pas atteint encore leur grande valeur. Deux, faut savoir un peu qui dirige les entreprises? Est-ce qu'on peut compter sur un développement? Et trois, combien de temps on garde le titre ou si on ne garde pas ça nécessairement à vie? Est-ce que je me trompe si je dis ça?
Oui, vous résumez assez bien ça. Ben, je pense qu'il faut voir l'achat d'actions comme si on acquérait une entreprise au complet. Donc, si quelqu'un qui achèterait une entreprise au complet, ben, il ferait le travail de bon, est-ce que c'est une entreprise que je comprends? Est-ce que c'est une entreprise qui a un bel avenir? Est-ce qu'une entreprise qui est bien dirigée, qui a un beau bilan, qui a pas trop de dettes, qui a des activités assez prévisibles là, que je suis capable de voir dans 5 ans, 10 ans que l'entreprise va être. Et finalement, ben, toute entreprise a une valeur. Donc, faut payer un prix raisonnable si on veut obtenir un rendement raisonnable. Si on paye trop cher, ben, même si l'entreprise fait bien, ben, on pourrait être pénalisé par un retour à la normale de l'évaluation éventuellement. Donc, c'est beaucoup de dimensions qu'il faut mettre ensemble. Mais je pense que si j'avais en résumé une phrase, faut vraiment avoir l'attitude. Est-ce que je voudrais acheter cette entreprise-là et la conserver, là, 10 ans, 15 ans, 20 ans idéalement. Là.
Votre meilleur coup, c'est quoi?
Ah, il y en a eu quelques-uns de très bien, là, mais...
Dollarama, je pense.
Dollarama, ça a été très bien, qu'on a acheté il y a une douzaine d'années, qui est une entreprise de Montréal que j'aime beaucoup. On a eu aussi une compagnie qui vend des pièces de voitures qui s'appelle O'Reilly Auto Parts, qu'on a eu 15 ans en portefeuille, puis qui a fait plus que 1000%. Là. Donc, il y en a eu. Puis, les grands gagnants font une grande différence dans le portefeuille.
Puis les moins bons coups, dites-là, on l'a échappé.
Ah, mon Dieu, il y en a tellement, je ne saurais pas par où commencer. Là. Même dans la lettre annuelle que j'écris aux clients du Verdi Capital, j'ai toujours, à chaque année, là, les trois meilleurs erreurs de l'année où je donne des médailles, là, bronze, argent et or, là, aux meilleures erreurs de l'année. Puis il faut que je me limite à trois parce qu'il y en a plus que ça. Là.
Est-ce que, bon an, mal an, quand vous calculez les bons coups, les mauvais coups, qu'est-ce qui vous démarque des autres? Parce qu'il y a les fameux indices. Puis les gestionnaires qui vous écoutent ce matin vont dire, nous autres, on en fait des bons puis des moins bons. En quoi vous êtes différent?
Ben, je dirais que c'est pas une question d'intelligence ou de travail ou de choses comme ça. C'est une question d'attitude. Et André le décrit bien dans le livre. C'est une question d'attitude. Donc, c'est d'abord de dire, ben, j'accepte que, un, je suis pas capable de prévoir la bourse. Deux, je peux pas connaître toutes les compagnies, là, en détail. C'est pas réaliste de penser ça. Donc, c'est d'être très sélectif, d'un peu tracer un cercle, là, dans les compagnies qu'on est capable de comprendre, un cercle de compétences. Donc, de s'en tenir à ce genre de compagnie-là. Et dire, ben, si une compagnie, je suis pas capable de la comprendre, ben, c'est pas grave. Je vais juste pas l'acheter. Donc, d'être très, très sélectif. Et ensuite, d'être discipliné. De se dire, ben, moi, je pense que la compagnie vaut X. Bon, ben, je l'attends à tel prix. Une fois que je l'ai acquis, ben, c'est d'avoir la patience. Parce que parfois, c'est pas parce qu'on achète un titre une journée qu'il va monter le lendemain. Là, des fois, ça prend plusieurs années. Donc, ça requiert de la patience. Puis là, on parle pas de QI de 200, là. On parle de qualité humaine. Donc, d'être discipliné, d'être sélectif, puis d'être très patient. Et surtout, ne pas être affecté par la conjoncture économique, les hauts et bas de l'économie, les hauts et bas de la bourse, qui souvent sont assez prononcés.
Bon, on est dans une période un peu en montagne russe, là. Ça a pris une descente, ça remonte un peu, ça redescend, ça remonte. Puis là, encore la semaine dernière, on nous disait, ben 2023 va être une année difficile. Vous en pensez quoi de 2023?
Ah, moi, j'ai aucune idée de ce que la bourse et l'économie vont faire à court terme. J'irais jusqu'à dire que c'est pas important. Ça devrait pas changer une stratégie d'investissement, d'acquérir des compagnies pour les garder à très long terme. Donc, ceci étant dit, moi, ça fait à peu près 30 ans là, que j'investis à la bourse et je pense que c'est la 7e fois que je vois une baisse de 20% là, des marchés. Donc, ça fait partie de la vie d'un investisseur. Il faut accepter ça. Ça ne devrait pas affecter la stratégie de dire... Ben,
mais comme tout le monde, vous avez mangé un coup là, quand les marchés ont commencé à tomber.
Oui, c'est sûr. La bourse, c'est comme ça, il faut l'accepter. Ça fait partie de l'activité d'investir. Il va y avoir des baisses des portefeuilles. On peut pas éviter ça. Là. Il y en a qui essaient, de timer leur entrée puis sortie. Puis je pense qu'ils font une erreur, puis peu y arrivent. Mais il faut être capable de composer avec ça. C'est pour ça que je vous parlais de l'importance de l'attitude. On n'a pas à être affecté par les fluctuations boursières. C'est très difficile.
Mais c'est ça que j'allais vous dire. Est-ce que vous arrivez à dire, on parlait de vos principes tantôt, quand arrive un moment où ça baisse, de dire, OK, je vais essayer d'identifier les aubaines, est-ce que votre stratégie change ou vous restez de glace, vous calculez le potentiel de chacune des entreprises?
Oui, c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Ben, quand les prix de l'essence montent, les consommateurs sont découragés, puis quand ils baissent, sont contents. Mais à la bourse, on dirait que c'est l'inverse. Quand les prix baissent, les gens sont découragés. Il faut pas avoir cette attitude-là. Disons qu'on a un titre en portefeuille qu'on pense que, disons, il vaut 100 $ l'action. On l'a acheté, disons, à 70, puis il baisse à 50. Ben, il est juste plus sous-évalué qu'il était il y a quelques mois. Si la valeur est intrinsèque, on a raison. Éventuellement, c'est ça la beauté de la bourse. À court terme, c'est irrationnel et imprévisible, mais elle finit toujours par refléter la valeur de chaque entreprise. Donc, si on est patient, éventuellement, on va être récompensé. Et on peut même profiter des baisses boursières pour acheter à meilleur prix. Là. Donc, peut-être si on a des nouveaux capitaux investis, mais aussi peut-être vendre un titre qui a moins baissé puis augmenter un qui a plus baissé. Donc, il faut être rationnel, cartésien, focusé sur la valeur intrinsèque et essayer d'être imperméable aux fluctuations boursières.
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui écoutent ce matin et qui se demandent comment choisir son gestionnaire? Qu'est-ce que je dois vérifier? Qu'est-ce que je dois savoir? Puis quels sont les pièges à éviter?
Ben, je dirais, le piège à éviter, c'est ceux qui visent à faire de l'argent rapidement. Je pense qu'ils risquent d'être déçus la majorité du temps. C'est pas une activité qui enrichit rapidement la bourse. C'est quelque chose qui enrichit lentement. Moi, je pense que c'est mieux de s'enrichir lentement que de s'appauvrir rapidement, là. Mais Donc, tous les gens qui font des promesses, puis ils sont souvent de bonne foi, là. Ils ont une approche, une philosophie, puis ils pensent qu'ils ont une recette secrète qui va faire qu'ils vont avoir des bons résultats à court terme. Je pense que les investisseurs vont être déçus. Ben, je pense qu'ils doivent faire un choix basé sur leur propre philosophie, leur propre vision de c'est quoi. C'est de voir est-ce que le gestionnaire dont je lis les écrits ou que j'écoute la présentation, est-ce que ça cadre avec mon approche, ma philosophie, mes croyances, ma tolérance au risque. Il faut trouver quelqu'un avec qui il y a une chimie là. T'sais, on sent que c'est quelqu'un qu'on a confiance. Ça ressemble un peu à nous là quand on investit dans l'entreprise. On choisit des dirigeants avec qui on partage les valeurs, qu'on partage des idées, l'approche, puis ça, puis on est prêt là à embarquer dans le même bateau qu'eux, puis dire regardez, on s'en va.
Mais est-ce que des entreprises qui auraient pu être payantes et vous êtes dit non par principe, il y a des fonds qui investissent éthiques, par exemple, on veut pas de pétrole, on veut pas de tabac, on veut pas d'armes à feu. Êtes-vous dans ce genre-là ou pas?
Oui, je dirais, oui. C'est sûr que nous, le fait de dire on veut être une entreprise dans le portefeuille qu'on va détenir, idéalement 10 ans, 15 ans et plus, ben on est attentif à des choses qui, à long terme, pourraient être néfastes pour une compagnie. Parce que si c'est néfaste pour la société, ça va être éventuellement nocif pour la compagnie. Donc, on veut une entreprise qui va être là dans 15 ans et qui va avoir été bénéfique pour la société. Et si elle est bénéfique pour la société, éventuellement, les actionnaires aussi vont recevoir des bénéfices.
Là. J'ai écouté il y a quelques jours la série documentaire sur Bernard Madoff et la chaîne de Ponzi. Et il y a des témoignages de Madoff où il explique que ce sont des clients qui étaient eux-mêmes greedy, là, qui étaient obsédés par des gains rapides. Et là, tu te dis, mais comment quelqu'un a pu promettre à ses clients un rendement régulier alors que le marché est en haut et en bas? Lui a réussi à faire ça pendant des années et à aller chercher autant d'argent. Comment vous expliquez ça? Une chaîne de Ponzi marche.
Ben, je dirais que, comme j'ai dit tantôt, les gens sont attirés par des belles promesses. Puis bon, il y a d'autres personnes qui savent ça, donc ils veulent en profiter. Je dirais dans le monde de l'investissement, c'est probablement plus vrai qu'ailleurs, c'est vrai partout, là. Mais je dirais la qualité la plus importante qu'on devrait chercher chez un partenaire d'affaires, c'est l'intégrité. Moi, j'ai toujours dit l'intégrité, c'est comme l'oxygène. Si on n'a pas ça, tout le reste est futile. Donc, ça devrait être la première chose qu'on recherche.
Mais c'est dur à savoir si la personne qu'on a devant soi est intègre.
C'est pas facile, mais je pense que, tu sais, je parlais tantôt de qualité humaine. Il faut rechercher des qualités humaines. Une fois, j'avais dit ça, c'est qu'on cherche des dirigeants d'entreprise qu'on voudrait que notre fille marie. Ben, c'est quoi les qualités qu'on recherche chez quelqu'un qu'on a confiance? Ben, on parle avec la personne, ça fait du sens. On sent une intégrité, on sent qu'il y a des bonnes valeurs, on sent qu'il est à long terme, on sent que c'est quelqu'un de fiable, qui tient parole, qui est ponctuel. C'est quelqu'un qu'on sent qu'on peut compter. Puis je suis sûr, si vous pensez à tous les gens dans votre entourage, vous êtes capable d'identifier ceux que, oui, cette personne-là, je lui fais confiance. Puis vous avez des raisons très rationnelles là, pour arriver à ces conclusions-là. Mais je pense qu'on peut faire le même exercice quand on choisit un conseiller financier.
Monsieur Rochon, merci d'être venu ce matin.
Fait plaisir, merci.
François Rochon, publié chez Saint-Jean Éditeur, donc le parcours singulier d'un investisseur d'exception.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est dur de vous mettre, pas une étiquette, parce que de toute façon, c'est pas agréable, mais bon, comédien, humoriste, ouais. Vous faites de la radio.
Je fais tout. En fait, je fais tout. Peut-être que je fais rien en même temps. Mais non, j'essaie de... En fait, je vais là où on m'appelle. C'est un peu ça. Je pense que c'est le syndrome de l'enfant qui a été un peu intimidé à l'école. Fait qu'il est en perpétuelle recherche d'amour. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est y a pas de ligne directrice dans ma vie, là. Je pense que j'ai la ligne directrice de certaines librairies que tu dis s'il y a des livres, ouais, mais il y a en même temps un crockpot, puis en même temps des parapluies, puis des bonbons. Fait qu'en tout cas, je ressemble à peut-être ces librairies-là en ce moment.
Mais votre entrée, c'était par le biais du théâtre, c'est devenir ouais. acteur, comédien.
Ouais, ouais. Puis ça a été un franc échec, parce que...
Mais pas tant que ça, vous avez joué quand même dans pas mal de choses.
Oui, oui, oui. Non, mais au théâtre, en fait, le but, c'était de jouer du grand théâtre au TNM, tu sais, Shakespeare, les grandes tragédies. Puis c'est pas arrivé parce que, ben, je pense que, en toute honnêteté, j'étais pas le meilleur, pour vrai, en toute sincérité. Puis l'humour est vraiment arrivé par la porte d'à côté, un peu, parce que j'écrivais des monologues qui se voulaient, au début, tragiques, puis c'était vraiment mauvais, fait que j'ai commencé à faire du comique, puis là... Je sentais qu'il se passait quelque chose quand je faisais des trucs comiques. Mais déjà au conservatoire de théâtre, quand je faisais j'étais toujours plus à l'aise dans la comédie que dans le drame, naturellement. Puis il y avait une créativité qui apparaissait, l'idée de chercher des blagues à travers des textes et tout ça, c'est quelque chose qui me stimulait beaucoup. Puis l'humour, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, bon, mais j'aimerais peut-être ça peaufiner cette technique-là, parce que je considère que c'est un art, l'humour, puis j'ai voulu donc poursuivre ça, puis j'ai été apprendre à l'école de l'humour pendant 2 ans. Puis après ça, ben tout est arrivé avec Like Moi et compagnie, puis tout a
déboulé.
Mais là,
ça a déboulé, là, exactement, ah, oui, là, oui. Les rôles, mais pas juste des rôles drôle, des rôles aussi sérieux, vous avez
ouais.
joué?
Ouais, j'ai joué dans un film Les Barbares de la Malbaie.
Ouais.
ouais, c'est un film pas drôle, mais en fait, la promo était drôle parce que la promo l'annonçait comme une comédie un peu entre Slapshot puis Les Boys, on dirait. Puis là, tu regardes le film, puis c'est des longs paysages d'Ontario tristes, là. Puis tu sais, je veux dire, personne va regarder Thunder Bay pour se remonter le moral dans la vie. Fait que là, les gens, il y avait peut-être eu une confusion des genres. Puis quand il fallait faire la promo dans les arénas de la Ligue junior majeure du Québec, ça aussi, je trouvais ça spécial de parler à du monde qui... J'étais comme, oh, je pense ça va être spécial, le clash entre ce qu'ils pensent du film puis ce qu'ils vont voir. Mais oui, ça a été une expérience vraiment intéressante parce que, en fait, j'ai réalisé à quel point la comédie puis le drame, c'est vraiment proche, finalement. C'est que la comédie, c'est juste... Tu sais, je trouve que c'est un drame, mais qu'on a juste une distance, alors que le drame, on est direct dedans. Puis c'est souvent ça. Puis ça a été une occasion exceptionnelle là, de faire un film, de c'est quoi porter un film, c'est quoi changer son corps. J'avais pris 40 livres, en tout cas, que j'ai pas tout à fait perdu. Là, mais bref, ça a été compliqué pendant 2 ans après, parce qu'au Québec, aux États-Unis, quand tu prends 40 livres, t'as un chèque de plusieurs millions et un coach et tout ça. Je vais vous dire qu'au Québec, c'est pas exactement ça qui arrive.
Non, c'est sûr. Le spectacle qui commence le 16 février, ça s'appelle « Enfant du siècle ».
Ouais.
Puis là, vous n'êtes pas un enfant, puis vous n'êtes pas le siècle non plus.
C'est... Non, en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'au début, c'était un spectacle qui s'appelait Kate Moss. Aucun rapport. Ben, en fait, ça, ben oui, c'est ça. C'est que une affaire que j'étais comme, oh, ça va vendre ça. Puis je monte sur scène le premier soir, je dis, hey, ça n'a aucun rapport. Puis là, j'ai cherché. Puis dans ce temps-là, je lisais Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, qui raconte en gros l'histoire d'un jeune homme perpétuellement triste, qui pleure dans sa chambre tout le temps. Puis là, je m'identifiais beaucoup au personnage.
C'est là que votre père vous a dit à ta peine d'amour...
Lis jamais de Musset.
Jamais, parce que ça ira pas bien.
Non, ça ira pas bien. Il avait raison, hein, c'est ça le pire. Parce que c'est toujours dramatique, Musset, puis c'est quelqu'un qui pousse ses émotions au maximum. Puis dans la Confession d'un enfant du siècle, il raconte dans le fond l'histoire d'un jeune homme qui est mal pris entre une ancienne époque qui est l'époque napoléonienne, puis le futur un peu industriel, la France. Puis je trouvais que ça me correspondait très bien, puis que c'est un peu de ça dont j'avais envie de parler. C'était comment on fait pour trouver sa place dans un monde entre deux chaises, un peu.
Quand vous dites ça, on a l'impression que vous avez peut-être la sensation de ne pas être né à la bonne époque.
Ouais.
Ça se peut, ça?
Ben, ça a été longtemps ça. Puis ça a été longtemps ça, ce qui fait en sorte que toute ma vie, je me suis senti un peu exclu. Puis il y avait aussi le fait qu'on le marquait. Oh, t'es, oh, tu sais, je sais pas, t'aimes la poésie. Ouais, c'est un peu spécial. Ça allait même jusqu'à tu fais du ski, que c'est ça, mais c'était dans le Québec des années 90, des banlieues un peu mortifères, là. Fait que c'était baseball, hockey, l'hiver, l'été. Fait que le ski, c'était déjà particulier. Mais oui, il y avait toujours quelque chose qui me distinguait, ne serait-ce que mon nom aussi, tu sais, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. On entend quand même l'absence de compromis, là, dans ce nom-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas été content.
Est-ce que vous en voulez à vos parents?
Non, mais ça a été long.
Vous l'avez assumé?
J'ai fini par l'assumer. Mais le pire, c'est qu'au conservatoire, on a coupé mon nom. On m'a appelé juste Philippe Audrey, puis ça m'a vraiment fait de la peine. Puis c'était devenu un projet de vie de retrouver mon la rue Saint-Jacques. Mais ouais, non, il y a un côté où... c'est vrai que je me suis toujours senti en décalage entre l'époque, puis finalement, ben, en faisant ce spectacle-là, j'ai réalisé que non, c'est pas moi qui suis en décalage ni l'époque. C'est juste, c'est, on est tous. En fait, c'est ça qui était intéressant à travers les bars, à travers les rencontres que j'ai faites, c'est que tout le monde se sent en décalage nécessairement.
Mais vous disiez tantôt, bon, ça n'a pas été facile à l'école, je me suis fait écœurer, j'étais pas comme les autres, puis je regardais des films, puis j'ai appris beaucoup, Vous étiez un solitaire ou
très ouais solitude imposée aussi, parce que quand j'allais au parc, ben il y avait les gars de la cour d'école qui étaient là. Fait que très souvent j'allais dans les lieux où il y allait pas, nommément la bibliothèque. Fait que c'est comme ça que j'ai aussi développé mon amour de la littérature, de la poésie, de la monarchie, parce qu'il y avait des beaux livres et tout ça. Puis ça fait en sorte que, ben, aujourd'hui, ça donne ce que ça donne pour le meilleur et pour le pire. Mais ouais, c'était très solitaire quand même comme enfance.
Cette passion pour la monarchie, là, est-ce que c'est vrai ou c'est parce que c'est le personnage?
Non, c'est...
Quand je vous ai vu à LCN, là, commenter sur la reine, là, je me suis pincé.
C'est vrai?
Ben, je me suis dit, il est en stand-up, là, je peux pas croire que ça va analyser les funérailles de la reine.
Ben... Ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en monarchie au Québec.
Je te le donne.
Ça, mais non, mais c'est vrai. Pour vrai, il y a une affaire que... Puis je relis ça beaucoup au théâtre. Moi, mon éducation, c'est beaucoup fait à travers le théâtre. Fait que déjà, quand t'es dans le théâtre, la royauté, la monarchie, c'est déjà très vivant comme sujet. Puis après ça, ben, ce que j'aime de la monarchie, c'est que en soi, t'as l'institution qui est assez plate, qui est assez drabe, qui est assez inintéressante, mais t'as tout le drame, t'as tout le jet-set de la monarchie, t'as toutes les espèces de jeux de coulisses qui, littéralement, est nécessairement vraiment meilleur que Big Brother Célébrité, là. Il y a quand même, en ce moment, deux frères qui sont en train de s'entre-déchirer sur la place publique, puis c'est quand même l'avenir de notre démocratie, parce que reste que on est dans une monarchie constitutionnelle, donc si ça se passe mal à Londres, il va avoir des répercussions ici. Fait qu'il y a quelque chose. Puis après ça, c'est de voir la déconnexion. Tu sais, dès que tu te sens décalage, tu cherches quelque chose. Puis quoi de plus en décalage que un monsieur de 78 ans qui est pas capable de mettre de la pâte à dents sur sa brosse à dents comme le roi Charles, faut dire maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un rôle. Expert en monarchie, je sais pas, là.
Non,
je suis un amateur. Ça me fait plaisir de partager ma passion, mais de là à servir de pôle de référence, je sais pas encore toujours.
On a vu un certain nombre d'humoristes être capables de passer vraiment de l'humour. Tu sais, je pense à Patrick Huard, par exemple, qui peut faire du drame, qui peut jouer des trucs très, très sérieux, puis Michel Barrette, au début, je me souviens des premiers rôles plus dramatiques qu'il a joué. Tu sais, au début, les gens étaient un peu étonnés. Est-ce que vous craignez ça de dire, là, je suis un humoriste, puis un jour, on va m'offrir un rôle, puis tu sais, de faire l'espèce de transition entre les deux?
Bonne question. Je pense que non, parce que ça a toujours fait partie de moi, cette envie-là de faire du drame. C'est juste que je pense pas que j'ai eu la maturité, je pense pas que j'avais la technique non plus pour être bon acteur. Puis non, je pense que aussi, comme les exemples que vous avez cités font en sorte qu'aujourd'hui, la pluralité des genres est
vraiment...
Oui, parce
que longtemps, on les qualifiait d'usurpateurs en disant qu'ils prennent la job de vrais acteurs, de vraies actrices.
Puis je pense qu'on a vu l'inverse. C'est Christian Bégin a commencé à faire du stand-up, Emmanuel Bilodeau, donc Fabien Cloutier qui mêle les deux. Fait que je pense qu'on est arrivé à une époque où cette pluralité-là, elle pose moins de questions qu'on pouvait en poser avant.
Qu'est-ce que vous avez à dire dans votre spectacle?
Oh, ben en fait, je pars d'une prime. Ben d'abord que je vous aime beaucoup, ça j'en parle dans le spectacle.
Merci.
Non mais que si faut le savoir là, je suis prêt à partir un GoFundMe pour vous garder, Monsieur Arcan.
Ça va très bien.
Non, pour vrai, vous êtes. Non mais c'est parce que est-ce que puis je voulais vous faire une suggestion. Là, ouais. Il va y avoir les grands chantiers, là, l'espèce de colloque où on va savoir oui. que c'est mal géré.
Fluidité, mobilité. Voilà. Ces concepts, avec les parties prenantes.
Oui, ça va être super intéressant de savoir comment vont nous dire que ça a été mal géré. Voilà. Mais pouvez-vous faire une émission en direct de là-bas, peut-être?
Je pense pas qu'ils vont me laisser.
Ah non, mais ça serait bon, je pense.
Mais là, tu réponds pas à ma question.
Oui, non, mais... non, je fais comme un politicien qui est nerveux, là.
Ouais.
non, mais en fait, ce que j'ai à dire, c'est simplement que ça a été très long avant de trouver la fin du spectacle. Elle est apparue, là, littéralement, il y a une semaine, où j'explique que, en fait, j'ai lu une phrase qui dit que la perfection n'existe pas, puis que c'est le triomphe de l'intelligence humaine de pas le comprendre. Puis que je trouve que, en fait, la vie, c'est ça qui est émouvant, c'est comment on navigue à travers notre temps pour essayer de chercher une perfection dans notre vie, tous et chacun. Après ça, ma perfection n'est pas la définition de l'autre perfection. Puis c'est cette espèce de quête sincère-là que j'essaie de parler. Puis après ça, je pense que c'est un message... Pour tous les gens qui se sentent un peu atypiques, puis tout ça, c'est un peu la constatation de quelqu'un qui s'est fait dire toute sa vie, ouais, t'es un peu différent, ouais, t'es pas pareil, ouais, t'as fait ci, puis qui s'est senti coupable de ça, puis qui finalement réalise que non, c'est pas moi qui suis coupable de quoi que ce soit, c'est ce que je suis, c'est comme ça. Puis tant qu'à chercher la perfection, tant qu'à voir qu'elle n'existe pas, c'est quand même beau de passer sa vie à la chercher. C'est à peu près ça, les lignes. Là, il y a des blagues, hein, en passant. Là.
Non, j'allais dire, ça allait être une conférence d'un sociologue.
Ouais, là, c'est la pire mise en marché de l'histoire de l'humour.
OK, mais... t'as 30 secondes de te reprendre.
Ben, non, mais pour vrai, c'est à travers ça. Puis je parle évidemment de la pandémie, je parle des grands sujets qui nous ont... je veux dire, je parle des... J'essaie de toucher au malaise qu'on a par rapport à certains groupes, par rapport au mettons, j'essaie de jouer avec le fait que je suis pas raciste, mais tu sais, des jeux comme ça, puis de toujours rester dans la ligne du bon goût parce que je veux pas choquer. Puis je veux pas me retrouver en entrevue avec vous quand vous êtes pas content.
Toujours disponible, c'est dans le trouble, hein? Les controverses, on est habitué de gérer ça. Merci beaucoup d'être venu
ce
matin.
Ça fait plaisir.
Philippe
merci.
Audrey Larue-Saint-Georges.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
C'est l'heure de l'anthropologie. Ce matin... L'homme québécois et la femme québécoise nous intéressent. Frédéric, comment se comporte-t-il dans ce qu'on appelle familièrement les tout-inclus?
Ben, faut dire que j'étais jaloux d'Alain Crête qui s'en va au show, notre collègue. J'ai donc décidé de casser ça bien comme il faut et m'attaquer aux gens gossants dans le sud. J'ai préparé ce topo-là avec Kémy Jobin, qui est une expatriée en République dominicaine. Elle est sur TikTok. Ça vaut le détour. Allez la suivre. C'est très, très drôle sur Instagram également. On a parlé des plaintes étranges et des habitudes propres aux Québécois. Je le disais tantôt, faut pas le prendre personnel. On n'a pas le monopole du gringo. Toutes les nations sont spécifiques, mais il semblerait qu'on soit facilement reconnaissable dans le Sud. Voici un condensé des cas les plus spéciaux.
Beaucoup de clients qui se plaignent, qui n'ont pas leur poste de TV québécois. Une des pires que j'ai vues, elle disait que ses enfants qui avaient peur des poissons. Puis pas personne qui l'avait avisé qu'il y avait autant de poissons là dans l'océan. Des Québécois qui amènent leur propre beurre de peanut dans le Sud. Là. Au Bahamas, quelqu'un est allé jusqu'à demander un remboursement complet. On l'avait pas avisé qu'elle pouvait pas conduire jusqu'à Nassau. C'est impossible de conduire du mille à l'autre. Là. Des fois, on se demande si c'est une joke. C'est pas une joke. On attend un peu, il y a un temps mort, puis finalement, on réalise que c'est pas une joke.
Et je te dirais, Paul, que depuis ma première chronique tantôt, ce qui a retenu le plus l'attention, c'est le beurre de peanut. J'ai eu énormément de messages, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Et j'ai eu d'autres suggestions. On parle de ketchup Heinz, de vinaigrette Kraft.
Les condiments.
Les condiments, particulièrement à Cuba, sont très, très populaires. Il y en a aussi qui vont au buffet et qui pensent qu'ils vont se faire servir de la nourriture. C'est un peu ça le concept du buffet, c'est d'y aller toi-même. Mm-hmm. Et j'ai fait aussi un sondage sur les réseaux sociaux, à savoir les irritants. Et ce qui est revenu souvent, c'est ceux qui réservent leur chaise au bord de la piscine et qui se poussent pendant des heures. Il y en a qui amènent leur drapeau du Québec pour étendre ça sur le balcon et souligner la fierté d'être québécois.
Mais à quel resort ils vont, eux autres?
Je sais pas, mais j'ai pris des notes. Il y en a beaucoup,
aller, hein, c'est ça. Ouais.
Il y a aussi des gens qui amènent leur radio et font jouer de la musique forte sur la plage.
Ah ouais.
Ça, c'est toujours très peu reposant. Et ceux qui s'attendent à ce qu'on parle français. Parce que les gens du resort parlent français, alors que la langue locale est loin d'être le français. Il y a aussi les gens qui entrent dans ta bulle. C'est pas parce que t'as pris un verre la veille avec quelqu'un au bar que t'as nécessairement le goût de passer le reste des vacances. Ça c'est très, très lourd.
Bénédicte, t'opines du bonnet, là. T'as vécu ça, je suppose?
Ah, je sais pas. On dirait que tout le monde veut être ami. Des fois, on peut aller en vacances pour juste avoir
mais
la paix.
C'est américain, ça, beaucoup. Moi, les where you from? Avec un petit verre dans le nez, là, je le vis pas mal plus qu'avec les Québécois, honnêtement.
Ceux qui s'échangent leurs coordonnées à la fin du voyage en disant « Hey, si tu passes à Trois-Rivières, tu passeras chez nous. » Qui est déjà passé chez les gens qu'ils ont rencontrés en vacances? Ça, c'est un autre débat. L'alcool aussi, ça peut être problématique selon Kémy Jobin.
L'alcool aide pas. Aussi, on a ramassé quelqu'un assez avancé. Il était juste 10 heures du matin. Il a roulé dans les vagues, je sais pas comment de fois.
Il y a ceux qui s'endorment dans les couloirs, les gens qui passent la journée au bord de la piscine, qui vont pas aux toilettes une seule fois. Ça, c'est un comportement assez fréquent. Commentaires disgracieux envers le personnel. Commentaires sexuels également envers certaines serveuses. Madame Jobin me disait qu'elle a déjà reçu un verre d'alcool au visage parce qu'elle avait refusé une demande de quelqu'un. Pour boire, ceux qui typent pas. C'est pas parce que t'es dans un tout inclus que faut pas que tu types. Au contraire, il faut typer et idéalement en argent américain. Et un truc que je voulais clarifier avec notre spécialiste, c'est les cadeaux. Les cadeaux aux personnes qui s'affairent à l'entretien, les gens du resort, ceux qui amènent des bas nylon, de la pâte à dents ou des vieilleries, là, qui pensent faire un voyage humanitaire dans un voyage 5 étoiles à Cayo Coco.
Un manteau d'hiver,
exactement. Donner du pourboire à la place.
Je pense pas que ça leur fait plaisir là, de recevoir de la pâte à dents et ces affaires-là, mais en même temps, ils sont capables d'en trouver pas cher ici. Fait que c'est vraiment le mieux, c'est de l'argent.
Tu sais, quand t'es rendu à avoir 75 paires de bas nylon, tu sais, ces gens-là ont une dignité aussi.
Mais il y a des effets scolaires et des affaires, par contre, ça dépend des pays. Tu sais, République dominicaine, Cuba, il y a quand même des endroits où tu vas que c'est... Ils ont besoin de beaucoup de choses.
Mais ce qu'on
l'argent,
dit...
L'argent, c'est pas toujours... Ouais.
Ce qu'on dit, par exemple, c'est l'argent principalement, mais bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions.
And you remember me, hein? With a lot of rum.
Hello!
Mais ça serait peut-être là, dans le sud.
Ça va pas bien, hein?
Non, ça va pas.
Mais j'ai quand même eu un texto que c'est pas que dans le sud. Hein. Il y a des stations d'activité et des stations au Québec, là, que ce soit de ski. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il travaille dans un endroit où on peut se stationner pour faire du ski de fond et qu'elle a reçu le commentaire. Au prix qu'on paye le parking, il devrait avoir plus de neige dans les sentiers. C'est ça.
Ben, c'est ça qui est ça.
Oui.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Bonjour. Première question, est-ce qu'on est capable de savoir environ le pourcentage de Québécois qui ont eu la COVID?
Ben, on a différentes approches pour faire ça. Celles qui ont fait généralement, c'est avec les tests sanguins avec Emma Québec ou encore les gens qui se présentent dans les urgences pour différentes raisons. On fait des tests de ce côté-là, mais on fait aussi des sondages qui sont assez précis parce que les gens ont eu accès à des tests rapides ou des tests TAN, là, c'est-à-dire les tests qu'on fait sur PCR. Et avec ça, on a une très bonne idée. Ce que ça nous montre, c'est qu'il y a au minimum 75% des gens, mettons jusqu'à 60 ans, qui l'ont fait. Et au-dessus de 60 ans, c'est au minimum la moitié. Quand je dis au minimum, c'est parce que il y a peut-être eu des cas asymptomatiques, les gens s'en sont pas rendus compte. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit ça comme ça, mais grosso modo, là, c'est vraiment la grande majorité des Québécois. Mais en haut de 60 ans, c'est pas la totalité, c'est 50%, peut-être un petit peu plus. Alors, ça laisse des gens qui l'ont jamais fait et qui restent à risque de le faire et d'être malades, bien sûr.
OK. Donc, ça veut dire que des gens qui n'ont pas eu la COVID, les gens qui n'ont pas été vaccinés adéquatement, ça nous laisse un pourcentage de combien puis de gens vulnérables?
Ben, ça nous laisse à peu près 1 million 500 000 personnes que nous recommanderions d'aller chercher une dose après 6 mois de leur dernière. Ça, ce sont les gens qui, comme vous le dites, n'ont jamais eu la COVID, mais qui sont dans nos groupes à risque. Alors, c'est pas tous les Québécois là, qui sont dans les groupes à risque, ce sont les gens plus âgés de 60 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, les travailleurs de la santé, bien sûr, les femmes enceintes, puis ceux qui vivent en région très, très éloignée, mais ne pas oublier les gens qui sont immunodéprimés. Ça, ils se connaissent, là, ce sont des gens qui prennent des médicaments assez compliqués puis qui donnent des effets ou des cancéreux, tout ça. Ces gens-là, là, même s'ils ont eu la COVID, leur immunité peut être fragilisée, alors on recommande après 6 mois une nouvelle dose. Ça, c'est pour les recommandations qu'on fait, là, c'est vraiment pour l'hiver actuel puis le printemps 2023, et on verra pour l'automne. Donc, ça laisse beaucoup moins de monde. On refuse personne, mais voici nos recommandations. Alors, la nouveauté là-dedans, M. Arcand, c'est que si les gens ont fait une COVID et qu'ils ont eu une vaccination minimalement de base, là, 2 doses, et puis plusieurs en ont eu plus que ça, on n'a pas besoin de retourner se faire vacciner durant l'hiver ou durant le printemps. Notre protection va durer, puis elle est très bonne. On appelle ça l'immunité hybride, c'est-à-dire le fait d'avoir eu la vaccination et l'infection.
Okay.
C'est très, très bon. Ça dure dans le temps.
Je me souviens qu'à un moment, il y avait une hypothèse selon laquelle le vaccin pour la COVID serait un peu comme le vaccin concernant l'influenza, c'est-à-dire saisonnier. Là, je comprends que la recommandation, vous dites, c'est pour l'hiver, le printemps, mais est-ce qu'on pourrait se retrouver à l'automne avec une campagne plus importante nationale de vaccination contre la COVID?
C'est possible, M. Arcand, votre question est très bonne. Puis plusieurs déjà juridictions s'enlignent progressivement comme ça. Mais nous, on préfère regarder nos données québécoises et internationales aussi sur l'efficacité vaccinale puis le temps qu'elle dure. Mais il est certain que cet automne, on aura, c'est-à-dire pour l'automne, on aura de nouvelles recommandations de notre comité d'immunisation du Québec. Puis ça pourrait aller dans ce sens-là. Mais il est trop tôt en ce moment pour le confirmer.
OK. Je voudrais parler des autres maladies respiratoires qu'on a connues là, avec une certaine intensité. Je pense évidemment à l'influenza. Je pense également à ce virus respiratoire là, qui a touché beaucoup d'enfants, des salles d'urgence à Sainte-Justine puis à Children encombrées. C'est quoi le portrait? Est-ce que la vague est passée?
C'est quoi le portrait de... Excusez-moi.
Ben, de tous ces virus respiratoires qu'on a eu, influenza puis virus chez les enfants.
Oui. Oui, excusez, c'est parce qu'il y a eu un accrochage sur la ligne. Somme toute, le paysage est très, très, très bon. En fait, il est étonnamment bon d'ailleurs. Donc, pour le virus respiratoire syncytial, ça a baissé beaucoup. On le voyait déjà en décembre qui commençait à baisser. Là, ça reste très bas. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos urgences pédiatriques, comme vous le soulignez, étaient débordées, mais ne le sont plus là, pour ces raisons-là. Le virus de l'influenza, lui, avait monté beaucoup, et il a baissé. Il est maintenant très, très faible, donc en bas de 1,5% là, dans nos systèmes de surveillance, là, je rentrerai pas là-dedans, mais ça veut dire que la contagion est très faible dans la communauté, donc on a un paysage très positif. En fait, il faut reculer presque 10-13 ans en arrière pour voir un mois de janvier aussi beau que ça. Alors, les gens ont probablement adopté des comportements très approprié pendant la période des fêtes, mais en plus, le virus a fait son temps. Alors, on est vraiment dans un paysage très positif. Puis pour la COVID, c'est la même chose. Ça a baissé beaucoup, beaucoup. C'est tant mieux. Mais là, on commence à avoir des signes, M. Arcand, d'une remontée chez les plus jeunes, chez les jeunes adultes. Ça coïncide avec la progression du variant là, XBB 1.5, là, que certains appellent le Kraken, qui, lui, s'installe là, dans une progression assez rapide au Québec, qui va nous donner une plus grande contagion, qui va amener des réinfections. Et puis, c'est pour ça que ceux qui sont à risque et qui n'ont jamais fait l'infection, on les invite, quand ça fera 6 mois qu'ils ont eu leur dernière dose, à en profiter.
OK. Je vois ce matin dans la presse des chiffres, en fait, qui nous montrent qu'il y a eu surmortalité, que c'est à la hausse, qu'autrement dit, c'est plus fort en 2022 qu'en 2020, qui était pourtant la première année de la pandémie. Comment on explique cette surmortalité, ce nombre plus élevé de décès?
On l'explique assez facilement, malheureusement, par le fait que l'Omicron et les autres variants se sont étendus à tellement de millions de personnes que ça a été chercher ceux qui étaient malheureusement les plus à risque. Donc, c'est surtout une surmortalité chez les personnes très âgées. Et ça fait en sorte là, qu'on a observé ces décès plus grands que la normale là, durant la période 2022. Mais c'est vraiment parce que c'est pas parce que le virus était plus virulent, hein. C'est parce qu'on a eu tellement de cas. Là. Souvenez-vous, l'année passée, à pareille date, là, on était dans des taux d'hospitalisation qui sont énormément supérieurs à ce qu'on a en ce moment. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas. Il en demeure pas moins que le Québec, globalement, pour la pandémie, a performé mieux qu'à peu près partout. Là. Ici, sur la scène canadienne, on est parmi les meilleurs. On est en deçà de l'Ontario, en deçà de la moyenne canadienne, en deçà de beaucoup de la moyenne américaine, puis on se compare au meilleur pays du monde. Donc, c'est le paysage globalement reste positif, mais la dernière année a été difficile, et M. Arcan encore plus durant l'automne. Alors, on a eu une surmortalité qui était due, entre autres, à tous ces virus qui nous ont infectés plus vite que nous l'aurions souhaité et qui est venu, qui sont venus chercher des gens plus fragiles. Mais le paysage s'améliore beaucoup. Puis si on regarde la mortalité plus récente des dernières semaines, c'est nettement à la baisse.
Beaucoup d'auditeurs m'envoient des courriels en disant on est convaincu qu'on a la COVID longue, on a des symptômes. Qu'est-ce qu'on sait de l'ampleur de ce phénomène de la COVID longue, puis comment c'est traité?
Bon, c'est un sujet d'importance. On a pas beaucoup de maladies infectieuses comme ça, respiratoires, qui peuvent allonger une maladie comme la COVID longue, comme le fait la COVID plutôt. Alors, on a probablement autour de, les études vont varier, là, mais mettez autour de 9-12% de cas qui peuvent se prolonger plus de 3 mois comme symptômes lourds. Il y en a, M. Arcan, que ça fait déjà presque 3 ans là, qu'ils ont des symptômes très lourds. C'est pas la majorité, mais il y en a. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur une base internationale là-dessus. Ici au Québec, on a aussi des pôles d'excellence de ce côté. Il faut juste penser à l'Institut de cardiologie, mais l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui fait des travaux importants avec d'autres centres. On a des cliniques qui sont bien installées de ce côté-là. Il y a toutes sortes d'approches thérapeutiques. Il n'y a pas une recette miracle, il n'y en a pas. Il y a même des vaccins qu'on redonne aux vaccins pour améliorer le sort de ces personnes. Donc, il y a des études en cours, mais somme toute, c'est de prendre tous les moyens qu'on peut pour pallier à ces effets qui sont des fois lourds et qui, comme vous le dites, là, inquiètent beaucoup de personnes.
Bref, il n'y a pas grand-chose à faire.
Il y a des choses qu'on progresse. Il y a des connaissances qui progressent de ce côté-là. Il y a des façons de s'identifier ceux qui sont plus à risque. Bien sûr, si vous voulez éviter ça, c'est d'être vacciné avant de faire le COVID. C'est pas sûr à 100% que ça va nous les éviter. Là, on essaye dans du 33%, 35% de bénéfices nets là, pour empêcher ça. Mais une fois qu'on l'a, c'est quelque chose de difficile. Mais comme clinicien, là, les gens qui voient les patients directement, ça dépend des symptômes qu'ils ont. Alors, il faut ajuster toutes sortes de médications, mais remède miracle en ce moment, pas encore.
OK. Là, j'arrive du champ gauche, je vous le dis tout de suite. Là, la santé publique, ce ne sont pas, en fait, que les maladies infectieuses. Là. Je regarde ce matin l'augmentation du nombre d'enfants sur la liste d'attente de la DPJ, des enfants qui attendent d'être évalués, des enfants qui attendent un plan de match. Je comprends que les cas plus graves sont traités plus vite, mais à quel moment ça devient un problème de santé publique, vous pensez?
Je pense que c'est un problème de santé ou de services sociaux là, pour la population et surtout pour les plus vulnérables, là, vous le dites bien. C'est pris en compte sous différents angles. C'est pris en compte aussi par la santé publique pour prendre toutes les mesures préventives pour éviter que des situations comme ça se génèrent là, au fil du temps. Donc, on travaille avec nos collègues du ministère de la Santé, le responsable, notamment Mme Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de la protection de la jeunesse, pour que dans l'axe de service, la partie de la naissance et même avant, on puisse éviter que ces situations-là arrivent. Une fois qu'elles arrivent, c'est pas les équipes de santé publique qui s'en occupent. Là. Il y a des fois des croisements, mais ce sont les services qui sont dédiés de ce côté qui s'en occupent. Mais pour votre question, vous mettez le doigt dessus, c'est pas un problème qui a une frontière en disant non, ça nous appartient pas. C'est un continuum de services à offrir pour prévenir, pour faire une promotion de santé, mais aussi des gestes préventifs auprès des personnes qui sont des fois plus à risque et d'éviter qu'on achemine des enfants dans des situations comme ça.
Parce que, on va en reparler tantôt, mais on a l'impression que de plus en plus de cas d'enfants qui font l'objet d'une évaluation sur le tard, on n'a pas les ressources. On a vu des jugements rendus où on ordonnait que l'enfant ait, par exemple, la présence et l'aide d'un psy. Ça arrive pas dans les faits tout le temps. Il y a des enfants maganés qu'on n'arrive pas à soigner.
C'est sûr que c'est pas une situation qui est à laisser comme ça. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a beaucoup d'énergie qui sont mises là-dessus. La COVID nous aura fait bifurquer beaucoup de nos énergies pour s'occuper de cette situation qui méritait toute l'attention nécessaire. Il y a eu toutes sortes de conséquences à cela au niveau des enfants, la scolarité, vous l'entendez. Alors ici, on est aussi dans un effet qui peut être lié à cette prolongation de toutes sortes d'effets familiaux là, autour de la COVID. Donc soyons vigilants là-dessus, mais les ressources sont mobilisées. Vous savez à quel point ou vous ne le savez pas à quel point, mais je pense que les gens affichent tous les efforts qu'il faut et la bonne volonté, mais ça continue à exiger des soins plus attentifs encore.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Monsieur Arcan, merci beaucoup.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
tout près ici,
très loin là-bas,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.